L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 11h15. Nous sommes le 10 novembre 1918, au cœur d'un pays dont le destin est en train de se jouer. Dans la douleur liée à la perte de toute une génération de jeunes hommes sur les champs de bataille d'Europe, l'Allemagne se meurt, du moins son régime impérial. Dans quelques instants, et dans une ambiance froide comme la mort, Rosa Luxembourg va sortir de prison. Dans son sillage, la révolution va pouvoir commencer. Enfin, la gauche va renaître de ses cendres. 11h15, l'heure H de mon récit. Quelques jours plus tôt, alors que le régime a déjà chancelé et que l'empereur Guillaume II prépare ses cartons, Rosa Luxembourg a été surprise d'apprendre son amnistie. Cette figure révolutionnaire et féministe allemande va donc être libérée après plusieurs années de prison. Le régime impérial l'a placée en détention durant les premiers mois de la guerre en février 1915. Quelle boucherie que ce conflit! Derrière ses barreaux froids et métalliques, Rosa a peaufiné sa stratégie politique alors que la toute jeune ligue spartakiste vient d'être fondée. Être de gauche, c'est déjà trop modéré pour elle. Non. Pour agir efficacement, il est nécessaire de se placer à l'extrême. Loin des codes de la société, loin du patriarcat qu'elle dénonce déjà aux côtés de ses camarades, loin de l'empereur et de sa clique. Rosa, ce qu'elle veut, du haut de sa cellule froide et miteuse, c'est tout envoyer valdinguer à grands coups de pied. Pas le choix. C'est la révolution ou la mort. En pensant à cette idée, les mains dans le dos, elle laisse échapper un petit rire narquois. La deuxième option ne lui fait pas peur. Ce qui est inenvisageable, c'est l'échec. Elle ne peut s'y résoudre. Ce 6 novembre 1918, alors que sur le front, la situation face à la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis est catastrophique, les dernières phases de son plan se mettent en place. Plongeant son regard hors des murs de la prison, elle croit distinguer un mouvement dans les rues. L'insurrection, forte, enracinée, semble prendre comme un feu de paille. Elle peut presque, en tendant l'oreille, entendre les cris des ouvriers qui se révoltent, percevoir les moustaches qui frémissent, remarquer les bérets jetés en l'air. À la manière de leurs voisins russes en 1917, le peuple va prendre le pouvoir, abat la tyrannie et le joug des puissants. Oh, elle jubile, Rosa. Elle attend son heure avec patience et dignité. Le courrier attestant de sa libération prochaine dans la main, elle entend le cliquetis dans la serrure de la lourde porte de bois de sa cellule. Là, face à elle, un grand gardien, imposant, droit comme un militaire essayant de se cacher derrière son képi, apporte son plateau repas. Il le fait soudain glisser au sol précipitamment, comme si le diable lui-même l'avait regardé dans les yeux. Il referme le verrou à double tour, crachant un « suppôt de Satan » sous ses moustaches crôlées. Vous, comme tous les autres membres de cette société déviante, n'allez pas être déçus, pense Rosa Luxembourg en ramassant les restes de son déjeuner. Les brimades sont habituelles depuis 3 ans, et bientôt tout ceci sera terminé. En se couchant le soir venu, le sourire aux lèvres, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endort en rêvant de ses amis qu'elle va bientôt pouvoir étreindre. Au premier rang de cette assemblée de partisans, Léo Jogiches et Karl Liebknecht. Bientôt, ils seront tous réunis sous le drapeau rouge. Quatre jours plus tard, le 10 novembre à 11h15, les portes de la prison de Spandau s'ouvrent enfin vers la liberté. L'impressionnant édifice se dresse sur l'ouest de Berlin depuis 1876. À la manière d'un château fort médiéval issu des contes pour enfants qu'on lui racontait en Pologne durant son enfance, les tours qui se dressent là semblent s'ériger en rempart contre les plus féroces des dragons. ses valises à la main, un chignon haut, caractéristique de celle qu'elle est là, Rosa Luxembourg jette un dernier au revoir à cette partie de sa vie qui ne va pas lui manquer. Rosa l'ignore, mais en 1947, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les plus hauts dignitaires nazis seront enfermés à la prison de Spandau. Le dernier pensionnaire des lieux, Rudolf Hess, s'y suicida en 1987. La prison fut rasée, les pierres qui la composaient jetées dans la mer du Nord comme une volonté de faire disparaître toute trace du diable qui a séjourné. Un supermarché s'y est ensuite installé. Pour le moment, alors que la Première Guerre mondiale va s'achever le lendemain, le 11 novembre 1918 à 11h11, Rosa traverse la rue et retrouve ses amis. Ils sont nombreux à l'attendre. L'air enjoué, ils lui annoncent que les nouvelles sont bonnes. Les ouvriers sont dans la rue. Le régime a chuté. Le moment est idéal pour se révolter et lancer les hostilités. Ceux qui prennent la parole sont tellement nombreux que le brouhaha est total autour d'elle. Voilà ce qu'elle inspire en ce mois de novembre, Rosa. L'espoir. Celui d'avoir enfin une vie meilleure. Celui d'être au centre de l'échiquier politique pour la première fois. Les Russes y sont bien arrivés avec Lénine, alors pourquoi ne pourraient-ils pas, eux, le faire en Allemagne ? L'odeur de la poudre dans les narines, Rosa est satisfaite, mais son air est grave. Elle n'oublie pas le sacrifice de tous ces jeunes lors de ces 4 années terribles. La Première Guerre s'achève, certes, mais pour son pays, l'heure de l'humiliation est venue, celle réservée aux vaincus. En marchant vers son domicile et avant de rejoindre la tête des cortèges pour attiser les braises de la révolte, Rosa se perd dans ses pensées. Elles sont nombreuses. La voilà bientôt au milieu des morts de Tannenberg, faisant face aux troupes du tsar de toutes les Russies. Un pas de plus et elle est projetée à Verdun, au milieu des obus et des hennissements d'agonie des chevaux. Une troisième enjambée, et c'est au milieu des tranchées et des boyaux du chemin des dames qu'elle assiste impuissante à la mort de ses fils de l'Allemagne. Des fils, des frères, des époux. Tout ça pourquoi ? Marmonne-t-elle, de manière inaudible. Un Kaiser incapable de gouverner, un réseau d'alliances avec des nations dont les intérêts ne sont pas ceux de son pays, un régime poussiéreux, à bout de souffle, omnipotent et ennemi du peuple. Alors elle pleure sur les trottoirs froids de Berlin, Rosa. Les larmes qui roulent sur ses joues ne sont pas celles de sa libération, non. Non, elle pleure les disparus, les mutilés, les gueules cassées, victimes du gaz et de l'horreur humaine. Dans la brume, ses amis, eux, voient apparaître une icône, celle de la liberté. L'un d'entre eux, soufflé par la portée de ce symbole, ose même une comparaison des plus flatteuses. Chuchotant à l'oreille de son voisin, il dit ceci. « Regarde, Karl, voilà Marianne qui se dresse devant nous pour nous guider. » L'histoire est en marche. Le destin tragique de Rosa suit également la petite délégation à bonne distance. Il ne faut pas se faire repérer, pas tout de suite. Notre histoire commence des années plus tôt. Nous sommes alors au cœur de l'été indien de l'année 1914. Pour la première fois depuis la chute de Napoléon, l'Europe entre en guerre. Un conflit total, mobilisateur, meurtrier. Rosa Luxembourg est consciente que le déclenchement de ce conflit mondial est retentissant, mais sent aussi le vent politique tourner en sa faveur. La jeune quadragénaire de 43 ans attend ce moment depuis longtemps. Sa lutte et son parcours politique, déjà, ont marqué son visage de ridules profondes et sinueuses. Elle est petite, moins d'1,60 m. Elle a ce charme particulier que dégagent les engagés, les écorchés vifs. Née en Pologne, sujette alors de l'Empire russe, Rosa Luxembourg s'est exilée pour faire ses études en Suisse. Avant de bifurquer vers l'Allemagne et d'en prendre la nationalité, elle se sent aujourd'hui pleinement berlinoise. Rien ne rappelle sa naissance plus à l'est, si ce n'est un accent à couper au couteau. Rosa est dépitée. Cela fait plus d'un an qu'elle milite contre cette guerre devenue depuis longtemps inévitable. Elle est profondément marxiste, croit en l'effondrement annoncé de ce système capitaliste qui favorise inexorablement les plus riches. Certains, au sein du parti de gauche dont elle fait partie, le SPD, voudraient bien qu'elle foute le camp, elle et ses idées extrêmes. Mais toute une frange du mouvement la suit, voyant même en elle la plus grande érudite de la gauche allemande depuis Engels. Rien que ça. Son opposition au régime et à l'armée lui ont valu une année 1913 et une première partie de 1914 particulièrement difficile. Procès, frais de justice, condamnation. Rosa est passée par tous les états. Alors qu'elle vient de terminer la rédaction d'un nouveau discours antimilitariste visant à réagir à l'éclatement de la guerre, elle se lève péniblement de son bureau. Elle jette un coup d'œil à l'horloge posée sur sa table de nuit. Il est 14h10. Le poids du chagrin et de la résignation sur les épaules, elle se dirige vers sa petite cuisine. Là, elle regarde machinalement le calendrier. Nous sommes le 3 août 1914. L'Allemagne vient de déclarer la guerre à la Russie. D'un trait de crayon, elle barre ce jour maudit pour l'éternité dans le cœur des hommes et note machinalement « Guerre, bientôt la chute ». Mais de quoi veut-elle parler ? Du capitalisme, bien entendu. L'ennemi honni, seul responsable pour elle de tout ce bourbier. La fleur au fusil, les jeunes hommes du pays reçoivent avec vigueur et courage les ordres de mobilisation. Personne ne craint la France, qu'on a déjà battue en 1871. Personne n'a peur non plus de la Russie, une armée qui semble plus désorganisée qu'autre chose. Rosa, tout ce qu'elle voit, c'est que des gens vont mourir, et pas pour la beauté du drapeau. Ils auront cette impression, bien entendu, mais finalement, ils mourront pour une question d'ego des dirigeants et pour le sacro-saint pouvoir de l'argent. Ah, ce terrible instrument qui régit le monde. C'est ça son point de vue, à Rosa. Alors qu'elle place sur son petit poêle à bois de l'eau à faire chauffer pour son thé, elle repense à l'année qui vient de s'écouler. Tout a commencé à Francfort, en septembre 1913, devant une assemblée ouvrière. Rosa a pris la parole afin d'enjoindre les ouvriers à ne jamais se battre contre des gens d'autres nationalités se trouvant dans la même condition. Et comme toujours, des espions du gouvernement se trouvaient dans la foule, mais elle n'a pas voulu y faire attention. Cet écart lui vaut un procès en février 1914 pour incitation publique à la désobéissance. La bonne blague. Les yeux dans le vague, Rosa a les yeux rivés sur un petit groupe de gamins qui jouent au ballon, casquettes vissées sur la tête à la manière de leur père, certainement mineurs ou ouvriers. Le même destin les attend maintenant, si ce n'est pire. Bientôt, l'Allemagne appellera sous les drapeaux tous ses fils. Elle regarde la casserole sur le feu. L'eau commence à peine à chauffer. Elle remet donc une bûche dans l'âtre et attise les braises. Attiser les braises, elle est douée pour ça. Ce procès au cœur de l'hiver lui a valu une célébrité nationale qui a de loin dépassé le milieu des cercles des prolétaires. Il faut dire qu'elle en a de la verve, et elle le sait très bien. L'un de ses avocats, Paul Lévy, devient son amant et les amoureux retournent l'opinion publique. Mais la condamnation ne tarde pas. Un an de prison. Peu importe. Virevoltant entre les organes judiciaires comme une danseuse étoile, Rosa fait appel. Et vous pensez qu'elle se tient alors tranquille, hein ? Eh bien, vous vous trompez. En mars 1914, Rosa prononce de nouveau un discours enflammé. Et c'est à l'armée qu'elle s'attaque cette fois. Nouveau procès, comme vous pouvez aisément l'imaginer. Mais cette fois, un élan populaire sans précédent la porte vers les sommets. Des milliers de témoignages affluent sur le bureau du juge, si bien que ces deux affaires sont tuées dans l'œuf. Mais elle devra quand même commencer à purger sa peine de prison à la fin de cette année. Un an. C'est court et si long à la fois. Elle fouille dans la poche de sa vareuse et trouve une cigarette. Elle ouvre cette foutue fenêtre qui est bancale. Derrière elle, l'eau bout enfin. le thé est prêt. Les mois qui suivirent ne furent pas nécessairement plus calmes, loin de là. Face à l'éclatement officiel du conflit, l'International Socialiste, ce mouvement européen qui rassemble les partis de gauche, échoue de manière lamentable à s'entendre et à s'unir. C'est une véritable catastrophe et un camouflet total pour cette institution qui voulait porter d'une seule et même voix la parole ouvrière. En France, Jaurès a été lâchement assassiné. Les fractures internes sont visibles et à vif. Rien ne semble présager d'une issue positive. Rosa Luxembourg, comme ses amis, est totalement dépitée par un tel manque de maturité politique. Pire, les jours suivants, les sociaux-démocrates allemands de gauche, tout comme la plupart de leurs collègues en Europe, votent les crédits de guerre et acceptent de se ranger derrière la fameuse bannière nationale. Pour la militante qu'elle est, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Scission, il est l'heure. Alors que la prison l'appelle en décembre 1914, elle crée avec son cercle proche la Ligue spartakiste. Encore plus à gauche toute. Nommée ainsi en hommage à cet esclave romain qui s'est révolté contre le pouvoir impérial. La Ligue est pour le moins extrême dans ses idées. Pour ceux qui la composent, Rosa en tête, une seule solution s'impose. La révolution. Il lance un premier appel en direction de près de 300 politiciens socialistes du pays à voter contre les crédits de guerre. C'est leur dernier espoir. Cela reste d'être morte. Pour Rosa, c'est la descente aux enfers qui commence. Incapable de reprendre le dessus sur cet échec pour le moins cuisant, elle tente tant bien que mal de rassembler des idées qui divaguent. Comment faire basculer l'opinion et tous les politiciens de gauche en sa faveur ? Face à ce nœud insoluble dressé face à elle, Luxembourg déchante et, malgré l'aide de ses amis, perd pied totalement. 15 jours après la formation de la Ligue, quelques jours avant les fêtes de Noël, elle s'écroule. Elle est hospitalisée pour fatigue extrême et surmenage. Sur les papiers, les médecins écriront qu'elle est épuisée nerveusement et qu'ils soupçonnent de l'hystérie. Vous savez cette maladie qu'on impute à l'époque aux femmes histoire de pouvoir les interner sans être gênées ? Le gouvernement se frotte les mains. Rien de plus simple alors que de la faire mettre en cellule. 3 mois d'hospitalisation plus tard, elle est placée en prison. C'est la douche froide pour elle, pour ses partisans et tous ceux qui croient à l'arrêt de ce conflit qui s'enlise. Terminer les charges de cavalerie avec panache et le son du clairon joué à tue-tête. Non, maintenant, on s'enlise dans des tranchées et des boyaux plus profonds les uns que les autres. Les armées sacrifient des milliers de morts pour gagner 100 mètres. Pendant que leur figure de proue se morfond en prison, nombre des amis de Rosa décident de ne pas se laisser abattre. Et de sa cellule, alors qu'elle a cru au départ que tout était perdu, elle décide elle aussi d'agir. Abat la guerre, abat le gouvernement. Dans les rues de Berlin, les tambours des marxistes résonnent déjà. Depuis sa fenêtre, derrière ses barreaux, Rosa Luxembourg peut déjà presque les entendre.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H traverse les dernières années d'une vie aussi riche que violente. Celle de Rosa Luxembourg, figure féministe de l'Allemagne du début des années 1900. Née en Pologne, alors sous le joug russe, elle fait ses études en Suisse, durant lesquelles elle se politise. Quittant Genève pour Berlin, elle devient citoyenne allemande et réussit l'exploit de se propulser parmi les figures de l'extrême gauche du pays. Ses admirateurs et ses soutiens sont nombreux et malgré des procès qui lui sont intentés par le gouvernement en place, elle persiste dans sa voie d'opposition à l'empereur Guillaume II et à la guerre qui se profile en Europe. Mais l'inévitable finit toujours par se produire. Au cœur de l'été 1914, l'Allemagne entre en guerre contre la Russie, la France et l'Angleterre. La funeste Première Guerre mondiale vient de se déclarer. Pour Rosa, après de violentes crises d'épuisement nerveux qui conduisent à une hospitalisation, c'est l'incarcération. Commence alors une détention qui sera pour elle une souffrance de tous les instants. Au dehors, ses camarades prennent des risques, combattent et parfois meurent, tant au front que dans la rue. Nous sommes en février 1916. Au cœur de la ville de Berlin. Après 1 an d'emprisonnement, Rosa Luxembourg est libérée. Elle retrouve les pavés et les manifestations. Sur le front, la situation s'enlise et bientôt, le fantôme de Verdun planera sur toute la nation. L'Allemagne y perdra plusieurs centaines de milliers d'hommes. Rosa est heureuse. Au cœur de cet hiver froid et morose, de pouvoir retrouver ses camarades. Durant sa détention, dépassant la souffrance que peut engendrer l'enfermement dans une cellule aussi humide que petite, elle a maintenu des liens épistolaires avec ses plus fervents partisans. Parmi eux, souvenez-vous, Léo Yogichès et Karl Liebknecht. Grâce à eux, la Ligue spartakiste a survécu. Mieux, elle s'est développée durant son absence. Un journal clandestin est né de cette fusion des mouvements de l'extrême-gauche. Celui qu'on a nommé « Les lettres de Spartacus » s'écoule sous le manteau à 30 000 exemplaires par jour. Un véritable caillou dans la chaussure du Kaiser. Quelques mois plus tard, le 1er mai, on retrouve Rosa au cœur d'une manifestation antimilitariste, une de plus. Elle porte sur les épaules le drapeau rouge. Yogichès est à ses côtés et il la regarde, contemplant cette beauté qui se révèle dans cette banalité. Ce qui la rend belle, Rosa, c'est l'étincelle révolutionnaire dans ses yeux, la verve qui sort entre ses dents, sa démarche assurée, pointée vers un seul et même objectif, l'arrêt de la guerre, la libéralisation du système politique au profit des ouvriers. Ils sont au premier rang, haranguent la foule et sifflent les forces armées qui les toisent, cachées derrière leurs fusils. À la gauche de Rosa, Liebknecht est là aussi, comme à son habitude, grandiloquent. Il porte un uniforme de soldat qu'un ouvrier a volé dans un dépôt. Il est intenable depuis le début du défilé, plusieurs fois déjà. Rosa lui a demandé de se calmer, mais rien n'y fait. Il multiplie les provocations, les slogans qui vont leur attirer à tous des ennuis, et puis fusent dans les airs des mots qui vont provoquer une avalanche. « À bas la guerre, à bas le gouvernement ». Bien qu'il soit un député de la nation, il est immédiatement arrêté par l'armée qui vient au contact de la foule pour le chercher. Il aura à peine le temps de terminer sa phrase. On fait sauter son immunité parlementaire et il est jeté au fond d'une cellule miteuse sentant l'urine. Rosa, qui se tenait à ses côtés alors qu'il prononçait ce slogan maudit, est, elle, placée sous surveillance policière. Cette mascarade durera plusieurs mois. Chaque fois qu'elle sort, des hommes en civil notent ses mouvements et la suivent de loin. Elle n'est pas dupe, ni idiote. Oh, elle a bien compris comment tirer les ficelles de ce manège. Mais un jour, trop confiante, elle va demander une cigarette à un des hommes qui se tient là, sous couverture. La police est grillée et la réponse ne se fait pas attendre. On l'arrête le 9 juillet 1916 et, comme le permet la loi en temps de guerre, on l'emprisonne dans le cadre d'une détention administrative. Ce qui, disons-le, veut tout et rien dire. Du moins, derrière ces mots magiques, le Kaiser est en mesure de mettre en prison les plus gros poils à gratter qui lui provoquent de l'urticaire. Rosa est à la tête de cette joyeuse bande qui s'agrippe à ses moustaches. Retour à la case prison donc pour la militante. Cette fois, elle va y séjourner plus de 2 ans. Alors, pour passer le temps, elle continue d'écrire. Ses relations épistolaires deviennent parfois romantiques. Mais alors qu'on intercepte l'une de ses missives, son aimé sera envoyé au front en tant que médecin militaire. Placé en première ligne, il y perdra la vie. Fortement abattue, Rosa a des idées noires, mais la vie politique du pays ne lui laisse aucun répit. En janvier 1917... le parti de gauche, le SPD, décide d'exclure tous les opposants à la guerre. C'est donc le cas de Rosa et de ses amis. Sans attendre, ils fondent en représailles le mouvement USPD qui devient rapidement une véritable force politique d'extrême gauche. De plus en plus radicale, elle se place à l'extrême gauche de l'extrême gauche. Alors que Rosa rêve de renverser l'ordre établi dans la violence, c'est finalement un autre pays européen, ennemi mortel de l'Allemagne, qui va lui donner l'exemple. En mars 1917, Rosa apprend depuis sa cellule que Lénine lance les grandes opérations en Russie. Dès lors, l'analyse de cette révolution voisine sera sa principale activité. Rosa Luxembourg considère le renversement du tsar comme le fait le plus notable de la guerre mondiale. Rien que ça. Elle soutient de toute son âme le parti bolchévique entre mars et octobre 1917, tentant de faire monter la même pression sur le sol allemand. Mais ça ne prend pas. Pas encore. Après avoir qualifié les bolcheviques de « force motrice », elle note dans une lettre qu'ils ont le mérite historique d'avoir proclamé dès le début et suivi, avec une logique de fer, la tactique qui seule pouvait sauver la démocratie et pousser la révolution en avant. Tout le pouvoir aux masses ouvrières et paysannes, tout le pouvoir aux soviets. Elle est subjuguée par tant de pouvoir donné à la base populaire. C'est une révélation. La concrétisation que le renversement est possible, ici aussi. Mais elle va vite déchanter. Ce premier élan est poussé à l'extrême en octobre, quand une deuxième révolution porte Lénine et sa clique au pouvoir. C'est là que les Russes et les Européens découvrent le véritable visage du communisme. Rosa sera la première à le dénoncer, soutien nationaliste, plutôt que d'être tournée vers le prolétariat. Et surtout, surtout, autoritarisme. Bien entendu, elle approuve la dissolution de l'Assemblée constituante en Russie, mais cela devrait être au profit de nouvelles élections. Au lieu de ça, Lénine devient tyran et le pays se divise. Armée blanche fidèle au tsar contre armée rouge, c'est le marasme. La solution de Lénine ? Faire assassiner toute la famille impériale. Même pour les spartakistes de Rosa, c'est ultra-radical. Ses dérives, elle les explique très bien. Selon elle, cela est dû à deux facteurs. La personnification du parti vers un seul homme et l'isolement de la Russie sur un plan international. Cela nécessite de lancer la révolution dans toute l'Europe, profiter de cette traînée de poudre. Mais ne surtout pas devenir des satellites de la politique russe. Il faut s'en détacher, de manière absolue. Les courriers de Rosa sont de nouveau remplis d'espoir. Elle attend avec impatience sa libération qui tarde à venir. Ses amis qui lui apportent des nouvelles du front sont optimistes sur son retour prochain. L'Allemagne est acculée, elle va mal. Le front de Verdun a lâché. Le chemin des dames est aussi une défaite lourde dans les têtes et dans les jambes. On commence, dans toutes les strates de la société, à refuser l'idée même de continuer cette guerre. Les braises de la révolte se disséminent, passent des appartements des beaux quartiers au refuge des sans-abri, de l'Assemblée aux casernes. Le vent se lève, lui aussi. Accompagne le mouvement dans une fougue folle, celle de la liberté, du changement. Sous les fenêtres de sa prison, la foule se masse, se brasse, de plus en plus instable, de moins en moins calme et maîtrisable. C'est avec cet espoir apporté par ses amis et par ses constatations propres que Rosa apprend les fissures qui se dessinent autour de la figure de l'empereur d'Allemagne. Le 6 novembre, enfin, elle reçoit une missive des autorités qui mettent fin à sa détention. Elle exulte. La veille de sa libération, comme un symbole, le Kaiser abdique enfin. La fin de la guerre est devenue inévitable. Durant les derniers jours du conflit, au travers d'offensives aussi insensées qu'inhumaines, les maréchaux et généraux d'une armée en dislocation, par fierté mal placée, refusent de stopper les attaques. Certains coups de feu sont échangés le matin même du cessez-le-feu, alors que les officiers sont déjà au courant de l'heure fatidique de l'arrêt des combats fixé à 11h, le 11 du 11e mois de l'année. On privilégie le symbolisme au péril de la vie de centaines de milliers d'hommes. Les jeunes Allemands sont piétinés, victimes des chars, de la puissance de feu supérieure des armées françaises, britanniques et américaines. C'est la fin d'un monde, celui où des générations entières d'hommes sont morts le nez dans la boue des tranchées, les corps dévorés par les rats ou par le feu des lance-flammes. Sur certaines photos de classe des promotions 1899, 1900 et 1901, où les enfants auraient 17 ou 18 ans au moment de la fin de la guerre, ne figure plus aucun survivant. Et pourquoi, au fond ? Pour la vanité de quelques-uns, bien au chaud dans les palais ou les QG d'état-major ? Pour la gloire de la mère patrie ? Foutaise. C'est simplement par intérêt économique, le nerf de toutes les guerres. Quel autre meilleur moyen a-t-on trouvé pour relancer l'économie ? Aucun. Mais à ce petit jeu de dés, l'Empire allemand a perdu cette fois. C'est vu trop beau peut-être. Même avec le pied en France, il doit plier le genou et se ranger derrière les exigences folles de ses vainqueurs. Croyant museler une fois pour toutes l'ennemi honni en agissant comme des tyrans, la France et les autres nations ouvrent eux-mêmes la voie à l'avènement d'un petit moustachu au dessein terrible pour l'humanité, 15 ans plus tard. Mais en attendant, le pays est déjà aux abois. Sans chef, sans assemblée, sans gouvernement, mais avec une tension palpable à chaque porte de maison ou d'immeuble. L'Allemagne brûle. Les ingrédients sont réunis sur le feu. Il ne manque dorénavant qu'une seule chose. L'étincelle.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H nous porte en 1919, sur les trottoirs et les pavés de l'une des plus grandes villes d'Europe, Berlin. Ici règne une agitation politique en passe de devenir totalement hors de contrôle. La guerre est perdue. Rosa Luxembourg sort de prison, portée aux nues. Dehors, l'agitation règne. Les spartakistes prennent une influence délirante. Ils sont aux portes du pouvoir. Mais les partis traditionnels ne comptent pas se laisser faire. Hors de question de finir comme la Russie où Lénine a puni les politiciens en les envoyant transis de froid au fin fond de la Sibérie à casser des cailloux. Non, l'Allemagne ne va pas basculer dans l'horreur. Le premier conflit mondial s'achève. La révolution chez les vaincus, elle, ne fait que commencer. Nous sommes le 1er janvier 1919, toujours à Berlin. Le début d'année civile est souvent un point de bascule de l'histoire. L'écume aux lèvres, les yeux enflammés, Rosa Luxembourg monte à la tribune. Son discours, tapé à la machine en main, elle est partagée entre l'excitation de parler et le poids de l'histoire qu'elle ressent sur ses épaules pour la première fois. Au terme d'un discours poignant et incisif de plusieurs dizaines de minutes, elle annonce le dernier des coups de boutoir, le KPD, le parti communiste allemand, voit le jour, enfin. Un nouveau journal, Drapeau Rouge, qu'ils ont fondé fin novembre, a déjà préparé le terrain. Il exhorte jour après jour les ouvriers à se révolter dans tous les pays, à compter sur le soutien de la Russie soviétique. L'espoir est réel. La réalité, elle, est pénible, âpre. Rosa surestime l'engouement révolutionnaire. Les projets lancés par le gouvernement de la nouvelle République de Weimar laissent songeurs nombre d'ouvriers et de prolétaires. Accès à la propriété, à la paix. Rosa ne fait pas le poids. Les gens en ont assez du conflit permanent. Cela ne l'empêche pas de multiplier les efforts, les discours, les marches, les actions coup de poing. Elle est partout. Même ses amis l'incitent parfois à la modération. Mais elle n'en a cure. En décembre, le QG du journal est occupé par les forces militaires. Une manifestation spartakiste le lendemain est dispersée à coups de fusils mitrailleurs. Bilan, presque 50 tués ou blessés. La tension est extrême. L'ambiance à couteau tiré. Ce 1er janvier, c'est le point d'orgue, la nouvelle scission, l'ouverture d'une nouvelle politique, celle de la guérilla. Rosa n'aime pas le terme de communiste, mais se range derrière le vocabulaire russe pour favoriser l'union. Elle préfère les vieilles méthodes et les vieux mots en tête, celui de spartakiste. 5 jours plus tard, la frange la plus extrême du KPD se soulève, distribue des armes aux ouvriers à la suite d'un différend politique. Karl, le bon ami de Rosa, est de la partie. Prévoir une insurrection sans plan, c'est tout bonnement suicidaire. Et de fait, elle échoue lamentablement. Le ministre en charge ne compte pas en rester là. Répression. Rosa, pourtant, n'était pas d'accord. Elle était prématurée, cette insurrection. Mais c'est trop tard. Ce sont les corps francs des chasseurs de communistes qui sont chargés de faire le sale boulot. Bientôt, Berlin devient une zone d'occupation. Le 14 janvier, Rosa publie un dernier article. L'ordre règne à Berlin. Vous sentez le ton amer ? Eh bien, attendez la suite. Le dernier acte de notre histoire est proche. Les corps francs s'organisent. Il faut couper la tête du mouvement pour espérer retrouver de la sérénité. La liste comporte trois noms. Rosa Luxembourg est le premier. Suivent ensuite ses amis Karl et Léo Jogiches. La récréation est terminée. Le lendemain de ce dernier article, Rosa est emmenée par des militaires dans une voiture. Ils sont venus la chercher aux aurores. Elle pense être conduite en prison ou dans un tribunal afin d'y être jugée. En réalité, c'est à l'hôtel Eden, quartier général des corps francs, qu'elle est emmenée. Là, elle refuse de répondre aux questions qu'on lui pose. Pas folle, la guêpe. Elle se demande simplement comment ces gars ont pu trouver sa planque clandestine. Peu importe. À la sortie de l'hôtel, un coup de crosse de fusil lui percute le crâne. Elle perd connaissance. Jetée dans une voiture après avoir repris quelque peu ses esprits, on lui annonce sa mise en détention. La voiture passe le premier carrefour, puis le deuxième. Elle a parcouru 100 mètres à peine. Rosa Luxembourg se prend une balle dans la tête et meurt sur le coup. Fin de l'histoire, fin de la révolution. Ses deux amis connaîtront le même sort. Karl, à la sortie de l'hôtel, comme elle. Léo Jogiches, cherchant à faire la lumière sur la mort de ses amis, est tué en mars. Officiellement, il a tenté de s'enfuir. La vérité, elle, semble se cacher ailleurs. En tous les cas, les espoirs de l'arrivée au pouvoir des communistes en Allemagne s'estompent presque aussi vite qu'ils sont apparus. La République de Weimar reprend la main. Un communiqué mensonger stipule que Rosa était abattue par une foule en colère. Son corps, lui, est jeté dans le fleuve. Lors de la cérémonie suivant le massacre de la répression le 25 janvier, c'est un cercueil vide qui la représente. Ceux de Karl et des 31 autres victimes composent la suite de ce funeste cortège. Le corps de Rosa ne sera retrouvé et remonté que le 31 mai. On pense que c'est elle. Je vous laisse imaginer l'état de sa dépouille après avoir séjourné plusieurs mois dans l'eau. Paul Lévy, l'avocat, qu'il aimait depuis tant d'années, parvient à faire reconnaître par la justice que les meurtres des communistes étaient des actes politiques. Les condamnés seront plus tard dédommagés par les nazis pour leurs ennuis judiciaires. Autre période, autre heure H, n'est-ce pas ? Rosa Luxembourg, femme de conviction, en plus d'être une icône politique notable de l'extrême-gauche, aura eu le mérite et le courage d'être l'une des premières à se dresser dans l'arène politique, permettant d'ouvrir la voie à une génération qui osera exposer ses convictions, quelles qu'elles soient. Et je vous propose aujourd'hui de nous quitter en vous laissant méditer sur ces quelques mots issus de l'un de ses articles portant sur la révolution en Russie. C'est un fait absolument incontestable que, sans une liberté illimitée de la presse, sans une liberté absolue de réunion et d'association, la domination des larges masses populaires est inconcevable. La liberté seulement pour les partisans du gouvernement, pour les membres d'un parti, aussi nombreux soient-ils, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Ainsi est morte la Marianne allemande, comme elle a vécu, avec courage et conviction. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.